13h, le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui une personnalité atypique. Elle a été star du mannequinat, première dame pendant 4 ans, mais c'est l'autrice, compositrice de talent, l'une des plus douées de la scène française que j'accueille aujourd'hui. Je suis ravie de rencontrer Carla Bruni.
Bonjour.
Bonjour Carla.
Bonjour Sophie.
Très admiratrice de vos talents d'autrice, ça vous convient, autrice, ou vous préférez auteur?
Ça s'appelle comment ce truc-là de changer tous les mots?
Oh, je
sais pas. Inclusion, non?
Oui,
je préfère auteur-compositeur, je sais, je suis démodée.
Et là, vous sortez un album qui vous ressemble, un album éponyme, vous n'avez pas trouvé de titre?
C'est vrai, j'ai pas tout à fait trouvé de titre, et puis après, j'ai laissé faire cette chose d'avoir un album éponyme parce que je me suis dit, après tout, on le fait une fois dans sa vie quand on est chanteuse. Allez, faisons-le maintenant. Après tout, c'est une période tellement particulière, on a dû faire tout tellement vite. En fait, je pense que j'aurais trouvé un titre, mais je suis particulièrement lente comme personne. Et donc, tout le temps que j'avais d'habitude, que je me prenais, que je m'octroyais d'habitude pour faire les choses de manière minutieuse jusqu'au bout et dans tous les détails, finalement, a été submergée par cette Covid qui nous a tout fait faire de travers et de manière branco-ballante et beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et voilà le travail. Mais je suis contente qu'il n'ait pas de titre, finalement.
Ouais, et puis c'est parce que aussi vous avez votre style et il n'y a même pas besoin de titre pour le définir. 13 chansons, 14 sur le vinyle, 17 sur l'édition collector. Il y a plein de premières fois dans cet album. Première fois réalisée par Albin de la Simone, on va en reparler. Première chanson écrite en italien, que vous interprétez avec votre sœur. Première chanson en anglais aussi, Your Lady, sur le thème de l'amour impossible.
Ouais, c'est pas mal l'amour impossible en fait pour écrire. Pour vivre c'est moins marrant, pour écrire c'est idoine en quelque sorte.
Bah oui. On va commencer par écouter le single qui est sorti en juillet, « Quelque chose s'est levé ». Alors, ça correspond à quoi, ce « quelque chose » C'est l'inspiration qui naît?
Je dirais à chacun son quelque chose. Mais « quelque chose », c'est quand même quelque chose d'amoureux, quoi.
Vous dites à chacun son quelque chose. Et justement, j'ai lu que vous faites très attention aux mots que vous choisissez pour que ce soit accessible à tout le monde et que chacun en fasse sa chanson.
Oui, c'est pas tellement ça. C'est que je fais attention au son des mots. Quand j'étais jeune autrice, j'ai rencontré un grand, grand, immense auteur français qui était Étienne Rodagil. Et Étienne Rodagil m'a expliqué que dans une chanson, il n'y avait pas seulement le sens des mots, mais il y avait aussi le son des mots. Et qu'il fallait qu'il y ait des consonnes dures et des consonnes molles qui s'intercalent. Sinon, ça faisait un gloubi-boulga et quoi que l'on dise, personne ne comprenait.
Ouais.
Et donc, il m'a fait comprendre que parfois, il faut choisir un mot plus simple, même si ce n'est pas exactement le mot qu'on voudrait, simplement parce qu'il sonne mieux au milieu des autres et qu'il les met en valeur. Parce que les mots, c'est aussi une musique.
Alors, on va l'écouter. « Quelque chose s'est levé », c'est Carla Bruni sur M Radio. Et ce titre-là, je l'ai dans la tête depuis la première fois que je l'ai écouté. Donc, c'est le signe d'un succès, je crois. Carla Bruni, c'est sur M Radio.
« Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. » C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à mal temps. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui, encore. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici? Nous emporte, nous réveille. quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu croisais quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas?
Sophie Davant est sur M Radio. Midi 13h le samedi, c'est ravi de vous rencontrer.
Et je suis ravie de rencontrer Carla Bruni aujourd'hui sur M Radio. Très honorée, Carla, que vous ayez accepté mon invitation. On va bientôt reparler, bien sûr, de cet album qui vient de sortir, votre dernier album. Mais je voudrais aussi qu'on revienne sur votre enfance, sur les rencontres qui vous ont construites, puisque c'est un peu le thème de cette émission. Donc, vous provenez d'une grande famille turinoise, ayant fait fortune dans les pneumatiques. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Vous êtes arrivée en France à quel âge?
Je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, donc très jeune. Je garde des souvenirs très précis de ma petite enfance, comme bon nombre de gens. Mais nous, on était une famille italienne assez vaste, et on vivait aussi avec ma grand-mère, avec ma tante, et quand on est venu à Paris, on est venu tous ensemble, donc on était une espèce de, de caravane de gens, quoi. Donc moi, j'ai souvenir de mon enfance, voilà, d'une enfance tendre et très solitaire. J'étais très très proche de cette grand-mère, qui d'ailleurs était française, et de ma sœur, dont je suis toujours très proche. C'était une toute autre époque. C'était des années où mes parents y croyaient dans tout. Mes parents croyaient dans l'espace, ils croyaient dans la science. C'était une espèce d'époque un peu bénie, hein, les années 70 et les années 80.
Une famille de musiciens. La musique avait beaucoup de place chez vous. Une
mère concertiste. Mes deux parents étaient musiciens, oui. Ma mère est pianiste, concertiste. Mmh. Elle fait plus de concerts parce qu'elle a 91 ans, mais encore, en fait, elle en fait encore. Maintenant, avec le Covid, non, mais... Mmh. Et puis, mon père était compositeur. Donc, c'est vrai qu'il y a eu toujours beaucoup de musique. Tous leurs amis étaient musiciens. Il y avait tout ça.
Est-ce que vous, à ce moment-là, vous vous dites déjà qu'un jour, vous écrirez des textes et que vous les interpréteriez, que vous les chanteriez?
Ça, je ne me disais pas que je les chanterais, que je les interpréterais, mais j'écrivais déjà.
Très jeune, vous écoutez?
Très jeune, j'écoutais les Beatles. Puis, vers l'âge de 10 ans, 11 ans, au tout début de l'adolescence, j'ai commencé vraiment à découvrir la musique et j'ai commencé à écouter beaucoup de chansons françaises et beaucoup de pop. Donc là, j'ai écouté de tout, de Bob Dylan à Aretha Franklin, de Nina Simone à Fabrizio De André. Mais moi, j'écoute beaucoup, 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 beaucoup de musique. Donc, quand on me demande des listes, en fait, de musique, j'ai beaucoup de mal parce que c'est très, très large. Donc, je n'en finis plus de faire des listes. Je me suis formée, voilà, à une culture musicale qui inclut, en plus, la musique classique, puisque mes parents n'écoutaient que ça.
Le samedi, Sophie Davant vous accompagne dans Ravie de vous rencontrer sur M Radio.
Carla Bruni est mon invitée aujourd'hui sur M Radio. On revient bien sûr sur la sortie de son dernier album, mais aussi sur ses années de construction, sur les rencontres qui l'ont forgée. Vous grandissez en France, vous faites des études, vous vous lancez dans des études d'architecture et puis tout d'un coup, on vous repère.
Je me lance très peu, hein, je vous rassure. Les études,
enfin, vous
et
vous
moi, c'était... Les études et moi, c'était vraiment deux voies différentes. Quoi,
vous n'aviez pas envie de faire d'études?
Non, je n'étais pas capable. Mon cerveau, il ne peut pas du tout.
Pourquoi?
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cognitif.
Quoi, vous aimiez trop la vie?
Non, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour étudier, d'autres gens, non. Moi, je peux très facilement mémoriser, j'ai réussi à inventer, et j'ai plein de fantaisies, si vous voulez, mais à l'école, j'ai ramé pour parler élégamment.
Donc, comment ça se passe quand on vous propose de devenir mannequin? C'est une rencontre, on vous repère?
En fait, mon frère avait une amoureuse qui était mannequin. Mmh. Et c'est elle qui m'a dit, mais je pense que tu devrais vraiment essayer. C'est rapide, il n'y a pas de formation, on a du travail tout de suite, on voyage beaucoup. Et finalement, j'avais tellement envie d'être indépendante et d'être libre.
À quel âge alors?
J'ai commencé à 18 ans après le baccalauréat.
Et tout de suite, vous êtes repérée et vous commencez à travailler immédiatement.
Non, j'ai beaucoup, beaucoup. Non, j'ai fait les 80 castings par jour en métro.
Parce que là, on s'imagine que ça tombe comme ça du premier coup.
Non, rien n'est jamais tombé tout cuit. Mais bon, globalement, ma vie, c'est du tout cuit. Donc, c'est normal que quand même, je doive m'y mettre.
C'est dû à quoi, vous croyez? Ma vie, c'est du tout cuit?
Non, c'est,
quoi,
mais c'est dû à une certaine chance. Je pense que j'ai de la chance.
Et peut-être une aptitude.
J'en parle tout doucement au cas où le destin se dépêcherait de me rabattre mon caca. Mais...
Une aptitude à s'ouvrir peut-être aussi au possible.
Oui, mais enfin, des possibles proposés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est en cela que j'ai de la chance.
Comment vous avez vécu cette période de star du mannequinat? Vous êtes une quinzaine à l'époque à être en couverture des magazines.
J'ai bien vécu.
En plus, avec une place à part. À l'époque, vous étiez de vraies personnalités.
Oh, vous savez, dès que les médias s'intéressent à vous, on devient une vraie personnalité. C'est comme s'ils émettaient la lumière sur quelque chose. On n'est pas plus intéressante que les filles de cette génération de maintenant, par exemple. Mais je pense que l'intérêt qu'on nous portait nous a rendues intéressantes. Moi, j'ai très, très bien vécu. Et j'adorais faire ce métier. J'adorais être... en groupe, j'adorais les filles, j'adorais le milieu de la mode qui est comme une famille étrange pour moi parce que c'est une famille qui est extrêmement fidèle alors qu'elle ne fraye qu'avec des choses artificielles et superficielles. Et en vérité, moi, je nous trouve moins superficielles que beaucoup de milieux dans le monde de la mode. En tout cas, le superficiel qui est en nous, on le sait. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Nous, on joue avec ça. J'aimais ce que disait Karl, par exemple, sur la mode, que c'est pas moral, que c'est pas amoral, mais que ça remonte le moral. Et c'est exactement ça.
Midi 13h, le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Avec Carla Bruni aujourd'hui au micro de Ravie de vous rencontrer. Je m'en réjouis. On vient de parcourir vos années de mannequinat. C'est en 1999 que vous rencontrez Julien Clerc. Rencontre très importante pour vous.
Très très importante. Très importante personnellement parce que c'est un cher ami. On ne rencontre pas tous les jours des grands amis. On dirait que les amis sont des frères qu'on choisit ou des sœurs. Et puis, en fait, j'ai rencontré Julien Clerc et... son agent de l'époque, son manager qui était Bertrand Labbé, cherchait des textes toujours pour lui. Et c'est ainsi que j'ai écrit pour Julien sans que Julien le sache et qu'on a pu écrire 6 chansons ensemble dans cet album merveilleux qu'il a composé à ce moment-là qui s'appelait Si j'étais elle. Donc pour moi, ça a été une entrée dans la chanson
royale
et à la suite d'auteurs tellement, tellement remarquables. Je parlais tout à l'heure d'Étienne Rodagil, mais aussi Jean-Loup Dabadie qui vient de nous quitter, mais aussi Françoise Hardy, mais aussi, là j'en oublie beaucoup, Maurice René, mais aussi, il a écrit avec beaucoup, beaucoup de monde, Julien. Il a même fait une merveilleuse chanson avec Jean-Louis Murat qui s'appelle Le Verrou. Pour moi, c'est un des plus grands mélodistes français. C'est une mélodiste inoubliable. Et donc, réussir à rentrer dans son univers avec mes paroles, pour moi, ça m'a donné une grande confiance, ça m'a donné confiance, ça m'a donné envie. Et ça m'a donné comme une espèce de légitimité.
Louis Bertignac.
Louis Bertignac, c'est un cher ami à moi. Je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans. Et quand je lui ai apporté mes maquettes de Quelqu'un m'a dit, je lui ai dit, écoute, je ne m'y retrouve pas parce que j'ai fait ces maquettes et j'ai l'impression qu'on... Et je ne sais pas comment on pourrait produire ça sans enlever toute la saveur et de ces chansons qui ne doivent pas être parfaites. Et lui, en fait, il a construit l'album sur les maquettes. Il a rajouté ses guitares, son savoir-faire. Voilà, c'est Louis Bertignac.
Et quel album? Et combien de tubes
dans cet album?
Ah ouais, donc c'était formidable.
Sophie Davant est sur M Radio. Midi 13h le samedi, c'est Ravie de vous rencontrer.
Et ravie de rencontrer Carla Bruni aujourd'hui. On va parler de son dernier album. On va entrer dans le détail avec toutes ces merveilleuses chansons. Un album extrêmement réussi. J'ai quand même envie de revenir sur cette expérience de première dame, parce qu'on n'a pas toujours quand même à son micro une ex-première dame. Comment vous avez vécu, Carla, le fait de devoir vous mettre un peu en retrait alors que vous étiez en pleine ascension en tant qu'auteur-compositeur? J'ai pensé à vous, moi, en tant que femme. Je me suis dit, ça doit être dur quand même. Ou ça ne l'a pas été, ou vous avez
accueilli ça? Ça ne l'a pas tellement été parce que j'étais un peu en retrait, sans doute, dans l'œil extérieur, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que c'est une position tellement prépondérante, si vous voulez, la position qu'avait mon mari à ce moment-là, c'est une position tellement importante Et ça implique la vie de tant de gens que forcément, on se met un petit peu en retrait, ce qui est totalement naturel.
Mais ça ne vous a pas effrayé.
Je n'étais pas en retrait.
Vous n'avez pas eu peur de perdre votre liberté d'artiste.
Non, mais ça vient de lui. Parce que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas liberticide. Et j'étais peut-être en retrait comme ça par rapport, par exemple, au monde médiatique un petit peu, par rapport à notre image. Mmh. Mais entre nous, tous les deux, lui, il ne me met pas en retrait. Ça, je ne vous dis pas comme il ne me met pas en retrait. Et c'est de ça qu'est venu le plaisir de vivre ces années-là et de les avoir vécues. C'est notre amour, en fait. Mmh. Notre amour était tellement protecteur, tellement tranquille, on était tellement heureux qu'à la fin, tout le reste nous glissait dessus. Même des choses d'une telle importance à l'intérieur de nous, en fait. Nous, on a passé 4 ans de rêve.
Est-ce que vous avez eu peur de commettre des impairs, de faire des gaffes? Est-ce qu'on prend des cours de première dame? Comment on aborde cette fonction?
Ça va être de monter une école première dame. Il n'y a pas beaucoup de clients, pas beaucoup c'est d'élèves.
Vrai. Oui, il y en a qui auraient eu besoin de prendre des cours.
J'avais peur tout le temps. Oui, non, mais je me disais, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Venait de là aussi la position de retraite, parce que je sentais bien que je n'avais pas le métier. Mmh. J'ai jamais du tout fait des métiers comme ça. Et le seul endroit où j'avais un petit peu de connaissances, c'était l'exposition médiatique. Et là, ça m'a d'ailleurs bien servi d'avoir été médiatisée depuis des années, parce que je l'ai pris comme un métier, comme un travail, qui était un travail que je connaissais d'ailleurs depuis longtemps. Mais pour le reste, pour la partie politique, oui, je faisais bien attention à ne pas dire de sottises.
C'était rien que l'extase alors.
C'était vraiment pas une corvée. C'est difficile, vous savez, de se plaindre d'avoir vécu une expérience aussi intéressante, même si c'est une position qui met effectivement un peu de pression. Oui, mais enfin, les gens, ils ont de la pression pour tout dans leur vie. Ils ont de la pression dans la difficulté, ils ont de la pression pour leur travail. Qui n'a pas de difficulté, pas de pression? Donc non, je crois que la pression, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde est sous stress, tout le monde est en difficulté.
On va écouter une chanson extraite de votre dernier album, Rien que l'extase. Comment en parleriez-vous?
Je dirais que Rien que l'extase, ce serait un mélange de Eros et de Thanatos. Je dirais Thanatos, c'est-à-dire la mort dans les couplets, et Eros dans les refrains. Je propose dans cette chanson l'amour et le désir comme antidote à la mort.
Quel programme.
Rien que ça.
On l'écoute, Rien que l'extase, c'est Carla Bruni sur M Radio.
J'ai croisé la mort de près lundi dernier. J'ai senti à mon oreille les pales siffler. Et si j'ai pu l'esquiver, c'est par hasard. On était à moins le quart. Comment te décrire ces deux mains sur mes hanches? La morsure à belles dents sur ma peau blanche. Et la peur qui nous déchire, qui nous saisit. Quand la mort nous sourit. Et alors depuis, c'est comme ça. Je ne fais rien comme il se doit. Je me promène sous la pluie. Et je n'en fais plus qu'à ma joie. Rien que l'extase de nos caresses, de nos visage. Oh oui, et alors depuis c'est plié. Je ne fais plus que les jours d'été. Et allongé sous le vent, je regarde le ciel passer. Rien que l'extase de nos caresses, de nos visages, nos visages. Quand la mort est là soudain, ça crève les yeux. Elle va nous briser les reins, ni une ni deux. Et elle va nous mettre à genoux comme des damnés, à nous-mêmes, enchaînés. Aïe. Comment te décrire son ombre dans mon cou? La brûlure de son désastre à mes genoux. Et comment te dire le désir et l'effroi que la mort pose là? C'est certain, je ne m'inquiète plus guère de rien. Les remords, les débris ne passeront plus mon chemin, non. Rien que l'extase de tes caresses, de ton visage. Oui. Et alors depuis, c'est tout doux. Je ne fais plus rien du tout. Sans regret ni tracas, je laisse le temps passer par là. Rien que l'extase
samedi, Sophie Davant vous accompagne dans Ravie de vous rencontrer sur M Radio.
Et Carla Bruni est mon invitée aujourd'hui. Un nouvel album éponyme. 13 chansons dans l'album, mais il y en a une de plus sur le vinyle et 17 sur son édition collector. Alors, on va revenir sur ces chansons. Vous chantez, par exemple, La chambre vide. Sur le départ d'un enfant, c'est vrai qu'on se sent seul tout d'un coup.
C'est le départ de la jeunesse, de la petite enfance, de quand on était une maman,
ouais.
De quand ils étaient tout petits, de quand il fallait leur moucher le nez, quand il y avait les genoux écorchés, quand ils pensaient qu'on était tout, et quand nous, on pensait qu'on pouvait tout faire pour les protéger, qu'on saurait les protéger. En fait, non, on ne peut pas les protéger. Et heureusement, c'est ça la vie. Et ils partent, et heureusement, c'est bien ça la vie. Ça passe à une telle rapidité qu'en fait, ces chambres vides nous ramènent aussi à notre jeunesse perdue. Parce qu'on ne va pas dire que l'époque où les enfants sont tout petits n'est pas une époque particulière pour une femme, pour un homme. Tout est pris par ce bébé. Ça prend une place extraordinairement importante. Et on a tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. Et puis on se rend compte qu'en fait, il ne lui arrive rien quand il est petit. C'est après que
Absolument.
Les problèmes commencent.
Et ce n'est pas fini, vous allez voir. Un grand amour, un ange. Alors moi, j'ai adoré évidemment ces deux chansons. C'est quoi, un hymne à nos plus belles rencontres, nos plus belles histoires d'amour. Là, franchement, il y a du Barbara dans ces textes-là, vraiment.
Bah, écoutez, vous me faites tellement plaisir.
Mais c'est vrai. Les séparés, une chanson sur l'absence encore, composée par Calogero.
Sur la séparation, plus que sur l'absence, sur le déchirement, sur la déchirure de la séparation.
À propos de séparation, vous vivez une longue histoire d'amour, là, vous qui changiez d'homme assez régulièrement, vous militiez presque à une époque pour le fait d'avoir plusieurs histoires.
Non, pas vraiment, je militais pour l'équité. Entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là. Pas l'égalité, hein, mais l'équité.
Mais alors là, c'est quoi le secret d'un couple qui dure et de vous voir aussi amoureuse après quoi? Ça fait combien, 10 ans?
13 ans.
13 ans.
Dingue.
Et alors, c'est quoi la grande histoire, le grand amour, justement?
Je crois que c'est un mélange de chance et de hasard. Et puis, je crois aussi que, peut-être que je me trompe, mais il y a des rencontres importantes et précises dans la vie. Mais c'est vrai que quand on se rencontre un peu plus tard, il y a quelque chose de passionnant, de passionné, de brûlant, mais il y a aussi quelque chose de profondément instinctif et raisonnable. C'est-à-dire que mon mari et moi, on s'est rencontrés à 40 et à 50 ans. Lui avait eu deux familles avant moi, et moi une. Et donc, on s'est rencontrés. Oui, cette chose de la maturité, c'est une chose agréable. L'amour, le grand amour dans la maturité, c'est un accomplissement. Et c'est là qu'est la chance. Je crois que mon mari et moi, on perçoit le caractère précieux de ce qui nous a été offert.
C'est vrai.
Ravie de vous rencontrer sur M Radio avec Sophie Davant. Les 5 dernières questions.
Carla Bruni, si on vous donnait une baguette magique, là, tout de suite, qui aimeriez-vous rencontrer dans l'absolu?
J'aimerais bien rencontrer, si c'était possible, Dieu, au cas où il existerait.
Et alors, vous lui demanderiez quoi? Vous lui parleriez de quoi?
Non, non, rien. Juste qu'il soit là, déjà, hyper bonne nouvelle.
Parce que vous n'en êtes pas sûr au fond.
Non, je ne suis pas sûre qu'il soit là. Vous en êtes sûre, vous?
Non.
J'espère, mais je n'en suis pas sûre. Je n'ai pas la foi absolue. Voilà.
Parmi vos chers disparus, qui aimeriez-vous retrouver?
Oh là là, tous. Ma grand-mère, d'abord.
Votre grand-mère maternelle?
Oui.
La française, alors oui, elle était
exactement.
Française?
Qui m'a élevée beaucoup, ma grand-mère, mon frère, mon père, tous mes amis.
Quelle est la rencontre de votre vie?
C'est ça, c'est mon amoureux, ça c'est sûr. Ou peut-être mon inconscient.
Alors justement, j'allais vous demander quelle a été la plus belle rencontre avec vous-même. Est-ce qu'il y a eu un moment, déclic, où vous vous êtes dit, tiens là, c'est vraiment moi?
Moi, je ne me vois pas trop et en plus, je m'ennuie beaucoup parce que je suis un sujet tellement ennuyeux pour moi. Donc moi, je ne me vois jamais, vous voyez ce que je veux dire? Et je me pressens, je me ressens jamais. Quand je me vois dans un miroir, par exemple, bon, je vois bien que c'est moi. Mais c'est technique, si vous voulez. J'arrive pas à rentrer dans moi de l'extérieur. Si je viens de dire une phrase stupide. Là,
non, pas du tout.
Une phrase complètement bizarre, là, rentrer dans moi dans l'extérieur. Pourtant, il est midi, non, on ne voit
non,
pas.
Non, pas du tout. C'est pas stupide du tout. On voit très bien ce que ça veut dire. En fait, vous nous dites que vous n'êtes pas un sujet pour vous.
Je ne suis plus un sujet pour moi. C'est vrai que
depuis
j'ai fait des longues thérapies, donc j'ai longtemps été un sujet pour moi. Mais un sujet de travail et de dénouement aussi.
Si vous croisiez la petite Carla, elle est devant vous, elle a 7 ans. C'était avant votre arrivée en France. Vous voudriez lui dire quoi?
je lui dirais, n'aie pas peur.
Elle avait peur à ce moment-là?
Elle a toujours peur.
Elle a toujours peur. Bon, ben en tout cas, elle est très touchante. Bon, merci d'être venue, Carla. Est-ce qu'il y a une scène prévue pour défendre ce magnifique dernier album?
Il y a une scène prévue, nous on prévoit comme s'il y avait des scènes. Voilà, et on voudrait juste que ce...
Donc, vous prévoyez une scène, mais vous ne savez pas encore quand.
Bah, en fait, on prévoit au printemps et on prie pour que quelque chose se passe. Pas vraiment seulement pour moi, hein, pour tout vous dire. Tout notre métier est complètement naufragé. Les gens sont dans de grandes difficultés. Ils sont en train de changer de métier, d'essayer de trouver. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Les intermittents n'auront pas leurs heures cette année. Ça va être une vaste catastrophe. Alors, je sais qu'on doit être prudent, etc. Mais il me semble que si on pouvait vite trouver un remède de manière à ce qu'on puisse, nous, se remettre tous à travailler. Je ne parle vraiment pas de moi, hein. Je parle vraiment de tout le monde de la culture qui est, ben vous le sentez aussi, hein, qui est en train de tout perdre.
Alors, je vous propose d'écouter ce dernier album et avant d'applaudir Carla, on le souhaite le plus vite possible sur scène. Une scène à Paris, probablement une tournée en France. On l'espère de tout cœur, en tout cas. Merci d'avoir
merci
accepté
vous,
mon
Sophie,
invitation.
Merci, mille fois.
Merci à vous.
Ravie de vous rencontrer avec Sophie Davant. À retrouver dès maintenant en podcast sur mradio.fr.